إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا مع قراءة رسالة أصول في التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زلنا نقرأ باب القرآن محكم ومتشابه. باب القرآن محكم ومتشابه، وذكرنا أو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن القرآن الكريم يتنوع باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله. طيب، ومعنى هذا الإحكام الإتقان في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافع ليس فيها كذب ولا تناقض. Donc, on poursuit بإذن الله عز وجل notre explication du livre fondement du tafsir de l'imam al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans le chapitre concernant le fait que le Coran se subdivise en des versets qu'on appelle muhkama et des versets qu'on appelle mutashabiha. Et donc, il dit par rapport à ces deux formes ou deux catégories de versets qui sont muhkam et mutashabih, le Coran peut se catégorisé en trois catégories. La première, le fait que le Coran, dans son intégralité, on peut dire qu'il est muhkam. Il est muhkam d'un ihkam qui est am, qui est général, qui est global. Tayyib, donc on peut qualifier le Coran tout entier comme étant muhkam. C'est-à-dire, ici, le sens de l'ihkam, ici, dans son sens qui est général et global, le fait que tout ce qu'il y a dedans yani, est qualifié de perfection. Que ce soit au niveau des termes employés ou des sens contenus à travers ces termes-là. C'est-à-dire, dans le fond comme dans la forme, le Coran, il est parfait. Et il atteint le sommet ou le summum de l'éloquence et de la rhétorique. Tout ce qu'il y a dedans n'est que vérité. Il n'y a aucun mensonge, ni contradiction, ni de paroles inutiles ou de bavardage. Tout ce qu'il y a dedans n'est que vérité et parfait dans le fond comme dans la forme. Ceci est donc la définition de l'ihkam dans le sens général, et à travers donc cette définition, on peut définir القرآن كم إتان محكم جدي بيعرفه. وذكر كذلكم النوع الثاني وهو التشابه العام الذي وصف به القرآن كله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والغايات الحميدة. le deuxième point de vue au niveau de muhkam et mutashabih, Et que l'on peut dire aussi que le Coran tout entier est défini par le tashabuh de manière globale et générale. Ici, le tashabuh général signifie que le Coran, dans son intégralité, eh bien, ses versets ressemblent ou se ressemblent les uns et les autres au niveau de la perfection et au niveau des objectifs louables de tous les versets du Coran al-Karim. Donc tous les versets contenus dans le Coran peuvent être qualifiés de mutashabiha, d'un tashabuh qui est général, indiquant que les versets se ressemblent les uns les autres au niveau de la perfection, au niveau de le summum de l'éloquence et des objectifs nobles et louables que l'on retrouve dans ces versets-là. ثم ذكر النوع الثالث وهو الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. طيب، ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. لا خفاء فيه. وذكرنا مثالا ذكره الشيخ الشتري حفظه الله تعالى، وقال: المراد بالمحكم ما لا تلتبس فيه الأفهام، بحيث لا يرد إلى الذهن من هذه الآيات المحكمات معنى غير مقصود للشارع. مثال ذلك قوله تعالى: قل هو الله أحد، فلا يرد عليه احتمال يعني تثنية ولا تثليث، فهذا محكم بهذا المعنى. Et donc, ce qui est ici la troisième catégorie, on va parler maintenant de ce qui est muhkam de manière spécifique à certains versets et ce qui est mutashabih de manière spécifique à certains versets. C'est-à-dire que certains versets, lorsqu'on va regarder à travers cet angle-là, ce point de vue, cette perspective, eh bien, on va voir que certains versets seront muhkam de manière spécifique, alors que d'autres seront au contraire mutashabih de manière spécifique. Taïeb, qui dit ici le sens de ce ihkam qui est spécifique, eh bien, indique que le sens du verset qui est donc muhkam de façon spécifique, eh bien, il est clair, son sens il est clair, il est manifeste et ne contient aucune équivoque ou aucune interprétation erronée possible. Taïeb, comme l'a dit l'imam Sheikh Chetri, hafizahullah ta'ala, ce sont donc les versets qui ne prêtent pas à confusion, taïeb, qui ne peuvent pas yani, engendrer une mauvaise compréhension dans l'esprit de la personne qui lira ce verset-là. Donc ce verset, on dit qu'il est muhkam. Hein? Le lecteur ne peut pas comprendre autre chose que ce que Allah tabarak wa ta'ala a voulu que l'on comprenne. Exemple d'un de ces versets, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ » dit « Allah est unique ». Donc il ne peut se produire dans l'esprit de la personne une autre compréhension que le fait qu'Allah jalla wa ala, il est unique. La personne qui lit ça ne peut pas comprendre par ce verset qu'Allah est deux ou qu'Allah il est trois. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc, ce verset, on dit qu'il est muhkam. Tayyib. D'un ihkam qui est particulier, spécifique. Wa dhakarna kadhalikum ma'na at-tashabuh al-khas. أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله عليه الصلاة والسلام ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. voyez. Et on avait cité aussi donc un tashabuh spécifique à certains versets. Eh bien, le fait que ces versets-là soient ou peuvent être interprétés d'une manière erronée ou dans le sens peut-être caché pour certains, de sorte à ce que celui qui va lire ce verset et qui n'est pas rigoureux dans la science et ancré dans la science, il se peut qu'il ait une compréhension erronée et qui ne sied pas à la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala ou au livre d'Allah ou de son messager, alayhi salatu wa salam, alors que celui qui est ancré, rigoureux dans la science, lui, eh bien, il aura une autre compréhension que la personne qui n'a pas ou peu de science. طيب ولهذا قال الشيخ الشثري رحمه الله وحفظه للعلماء في تفسير التشابه الخاص أقوال منها القول الأول ما يحتاج إلى غيره في تفسيره بحيث يدخل فيه الألفاظ خفية المعنى يجي الشيخ que les savants, à propos de l'explication de Tashabuh al-Khas, ont plusieurs paroles. La première, ils disent que les versets qui sont Mutashabiha, c'est les versets qui ont besoin d'autres versets pour les expliquer, pour les détailler. Car il y a dans ces versets-là certains termes, certaines expressions dont le sens est caché. Dont le sens est caché. Et dont on ne pourra connaître la teneur qu'en allant chercher d'autres versets qui sont eux, muhkama. طيب. هذا هو القول الأول. القول الثاني. ما قد يفهم منه بعض الناس. ما يخالف مدلوله ومثل له المؤلف بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. La deuxième parole, les versets mutashabiha, ce sont les versets qui peuvent être compris par certaines personnes d'une mauvaise façon. Ça y est, les versets qui peuvent produire une compréhension chez le lecteur, une compréhension qui est mauvaise. Le verset, yani, n'indique pas ce sens-là, qui a été compris par certaines personnes. Et c'est en ce sens que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a exemplifié son propos par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, bel yadahu mabsutatani. Dans le sens rapproché, au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Tayyib. Donc il avait dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, que celui qui va lire ce verset, il se peut qu'il ait une mauvaise compréhension et croit que Allah tabaraka wa ta'ala a des mains identiques à celles des créatures. Voilà, iyad billah. Voyez. Donc, en ce sens, on dit que ce verset, il est mutashabih. والقول الثالث أنه مدلول اللفظ القرآني غير المراد لله تبارك وتعالى أو غير المراد لله نعم. فالمتشابه التشابه الخاص ظل بسببه أقوام وطوائف كثيرة فأخذوا بعض آيات القرآن ففسروها بغير مدلولها أو بغير مراد الله تبارك وتعالى بها ومن أمثلة هذا قوله عز وجل ليس كمثله شيء فعندما توهم المؤمنون أن المراد نفس الصفات نعم. La troisième parole, les versets dans la formulation coranique pourrait indiquer une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas voulu. Donc ces versets-là qui sont mutashabih, d'un tashabuh qui est spécifique, se sont égarés à leur sujet de nombreuses personnes et de nombreux groupes égarés dans l'islam, qui ont pris certains des versets coraniques et leur ont donné une explication qui n'est pas correcte et qui n'est pas conforme à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu nous dire. Et parmi les exemples de ces versets, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, wa huwa sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble, eh bien, certains ont lu ce verset et ont compris autre chose que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a voulu, et ont commencé à renier les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. À renier les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ils ont eu une compréhension de ces versets-là et ont cru que Allah tabaraka wa ta'ala par là a voulu dire qu'il n'avait pas d'attributs ou aucun attribut, alors que ce n'est pas du tout le cas. Allah jalla wa ala, il nie ici seulement la ressemblance à ses créatures et que rien ne lui est identique. Rien n'est similaire à Allah. Rien n'est ressemblant à Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. نعم. إذن هذه الآية من المشتبه وانقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا هي مماثلة لأيدي المخلوقين. وعلتهم في ذلك أن الله تبارك وتعالى خاطبنا بما نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد وهؤلاء هم المماثلة. On revient maintenant au verset d'Allah, بل يداه مبسوطتان. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il faut savoir que ce verset, donc, comme on l'a dit, fait partie des mutashabihat, à cause du fait que la personne risque d'avoir une compréhension erronée et croit que les mains d'Allah sont les mêmes que les mains des créatures. Donc il faut savoir que par rapport à ce verset-là, les gens se divisent en trois catégories. La première, ceux qui disent que les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala sont identiques aux mains des créatures. Et la raison de cela, c'est le fait qu'ils disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous parle et s'adresse à nous en nous disant des choses dont on a connaissance. Et ils disent que nous n'avons connaissance que ce que nous voyons et attestons. Donc ils disent, cela nous amène à dire que les mains d'Allah sont les mêmes que les mains des créatures. Wal'iyadu billah. Donc ces gens-là, on les appelle al-mumathila. Al-mumathila. Wa thani, qalu, inna zahir al-ayat al-tamthil. Qalu, inna zahir al-ayat al-tamthil. Wa lihada yajibu an nasrifaha an zahiraha ila amrin ma'nawi. Wa yaqul, al-yad bima'na ni'ma ou bima'na al-qudra. La deuxième catégorie, ceux qui disent que le sens apparent du verset nous indique la ressemblance aux créatures. Donc nous, on va faire le contraire. Au lieu de dire qu'Allah ressemble à ses créatures, eh bien on sera obligé de faire dévier le sens apparent de ce verset-là vers un sens qui est métaphorique. Un sens qui est métaphorique, imagé. Ils disent par exemple, du coup, que la main, ce n'est pas la main un membre, hein, la main, le sens que l'on connaît, mais il a le sens ici de un ni'ma. La main ici veut dire un ni'ma, donc c'est une métaphore pour dire que, pour dire ici, le bienfait, ni'ma. Ou alors le sens de al-qudra, la capacité, la force, la puissance. Jayid. Donc ces gens-là ont fait l'opposé du premier groupe, al-mumathila. Eux, ils ont, comment dire, déformé et altéré le sens véritable de al-yed, la main. Wal-qism al-thalith, qalu. تثبت لله أو نثبت نحن نثبت لله يدين حقيقتين لكن لا تمثلان أيدي المخلوقين أما إثبات اليدين فلأن الله أثبتهما لنفسه وهو أعلم بنفسه منا وأما كونها لا تماثلان أيدي المخلوقين فلأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا دليل سمعي. طيب le troisième groupe, ils disent, nous, on affirme pour Allah deux mains véritables, deux vraies mains, mais elles ne sont en aucun cas identiques aux mains des créatures. طيب. Quant au fait d'affirmer les deux mains, eh bien, tout simplement, pour la simple raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a affirmés pour lui-même, et Allah jalla wa ala est plus savant à son sujet que nous. Et quant au fait que ces deux mains ne ressemblent en rien aux mains des créatures, car Allah jalla wa ala, il a dit, rien ne lui ressemble, et c'est lui, hein, l'audient, l'omniscient, à la perfection. Ou l'audient et le clairvoyant, pardon. Donc, on comprend ici que il faut réunir tous les versets. Et en réunissant tous les versets, on arrive à ce type de conclusion. Donc ça, c'est l'argumentation qui est sam'i, c'est-à-dire qui repose, yani, sur les textes. Wa dalilun aqli, idha kana lillah ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فليكن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين لأن الصفات تابعة للذات وكلنا يعرف أن اليد المضافة إلى الجمل مثلا ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مثلا بمجرد ما يقول الإنسان قد رأيت أو نعم قد رأيت يد أرنب يعرف أنها يد صغيرة تليق بالأرنب أو يقول يد جمل يعرف أنها يد كبيرة تليق بالجمل طيب فصفات كل شيء تناسبه فإذا كنت أيها المعطل قد تثبت أن لله تبارك وتعالى ذاتا لأنه لو أنكر أن لله ذاتا لكفر لأن هذا جحد مطلق لكنه يقول لله ذات هل تقول إنهما تماثل يعني أو إنها تماثل ذوات المخلوقين سيقول لا إذن نعم إذن كذلك الصفات لا تماثل صفات المخلوقين فنقول له أثبت صفات لا تماثل صفات المخلوقين لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات فهذا قياس واضح ولله الحمد طيب Maintenant, l'argumentation tirée de la logique et de la raison. À partir du moment où Allah tabaraka wa ta'ala possède une essence, un être, un soi, une entité qui ne ressemble en rien aux entités des créatures. Eh bien, de la même façon, Allah tabaraka wa ta'ala a des sifat, des attributs qui ne ressembleront en rien aux attributs des créatures. Car as-sifat, les attributs, appartiennent à l'entité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yani, ils sont intrinsèques à l'entité, au soi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et chacun d'entre nous savons que la main que l'on va affilier et que l'on va annexer au chameau n'est pas comme la main que l'on va affilier au lapin, par exemple. Donc, du simple fait que la personne dise la main d'un lapin ou la patte d'un lapin, eh bien, on comprendra que c'est une patte, une main qui est petite et qui est propre à cet animal. Ou si la personne dit la main d'un chameau, on comprendra que c'est une main qui est grande et qui est propre au chameau. T'as vu? Donc, les attributs de toute chose sont spécifiques et propres à ces choses et à ces créatures. Donc, il dit le cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, si toi, yani, Al-Mu'attil, c'est-à-dire celui qui renie qu'Allah il a des attributs, tu affirmes qu'Allah il a une entité. Tu affirmes qu'Allah possède un être, une essence, une entité. Et tu n'as pas le choix, parce que si tu renies le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala a une entité, eh bien tu auras mécru. Car ceci est une négation, un reniement qui est absolu. Allah n'a pas d'entité, n'a pas d'être, n'a pas de soi. En gros, tu renies l'existence même d'Allah tabaraka wa ta'ala si tu dis ça. Vous voyez? Donc il va te dire forcément, Allah, il a un être. Allah, il a un vête, il a un soi, une entité. Donc, est-ce que tu dis que, également que cette entité-là d'Allah est identique à celle des créatures, il te dira certainement, certainement, non. Par conséquent, on lui dira à ce moment-là, eh bien, affirme également les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala qui ne ressemblent en rien aux attributs des créatures. De la même façon que tu affirmes un être à Allah tabaraka wa ta'ala qui ne ressemble en rien à l'être des créatures. Parce que le discours au sujet des attributs est une des branches en vérité du discours que l'on va adopter au sujet des entités et du soi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ceci est une comparaison qui est claire, une analogie qui est évidente. Alhamdulillah. Jayed. إذا قال المؤلف رحمه الله موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تبارك وتعالى فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله جل وعلا به فيضلون ويضلون وأما الراسخون في العلم يؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق ليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. Donc, dans le chapitre, yani, qui vient juste après, Il dit, la position des gens qui sont rigoureux dans la science et ceux qui ont un penchant vers l'égarement, yani vis-à-vis de al-mutashabih, des versets qui sont mutashabiha. Donc la position des gens qui sont rigoureux dans la science, qui sont ancrés dans la science, à propos de al-mutashabih, et la position de ceux qui sont, yani qu'on dit za'irin, qui ont tendance à aller vers la déviance, Allah tabarak wa ta'ala les a exposés et il a dit donc à propos de Az-Za'irin, il a dit dans le sens rapproché, quant à ceux qui ont dans leur cœur une tendance à la déviance, eh bien ils vont suivre et poursuivre ce qu'il y a dans le Coran comme verset mutashabiha, désirant par cela el-fitna, semer le trouble, et désirant par cela son interprétation. Et il a dit Allah tabarak wa ta'ala, au contraire, au sujet des ar-rasikhina fil ilm, ceux qui sont rigoureux dans la science et ancrés, il dit, et ceux qui sont rigoureux dans la science disent, nous y croyons, tout vient de la part de notre Seigneur. Donc, Zahirun, ils prennent de ces versets qui sont mushtabihat et ils s'en servent comme un moyen pour discréditer la parole d'Allah, le livre d'Allah, tabarak wa ta'ala, pour semer la confusion chez les gens et pour obtenir une interprétation qui n'est pas conforme à ce qu'Allah, tabarak wa ta'ala, a voulu nous transmettre. Ils s'égarent donc et égarent les autres. Quant à ceux qui sont ancrés, rigoureux dans la science, ils croient que tout ce qui est dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est que vérité et qu'il n'y a à l'intérieur ni divergence, ni opposition, ni contradiction. Car comme il dit Allah jalla wa ala, dans le sens rapproché, s'il venait d'un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ils y trouveraient de nombreuses divergences. Donc ce qu'il y a dans le Coran et qui est mushtabih, eh bien, tout simplement, on doit retourner aux versets qui sont muhkam en les réunissant, et ainsi, ces versets qui sont mushtabih seront eux aussi muhkam, car ils vont être expliqués, clarifiés et mis en évidence par des versets qui sont muhkamat. ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc, hein, comme on a dit tout à l'heure, concernant la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, ses deux mains sont largement ouvertes. Taïm. Eh bien, la réponse à cela est que ce sont deux mains véritables et qui sont propres et qui sont dignes ou qui sied à la majesté d'Allah, la grandeur d'Allah, tabarak wa ta'ala, qui ne ressemble en aucun cas aux mains des créatures, comme le fait qu'Allah jalla wa ala a un être, une essence, qui ne ressemble en rien aux essences des créatures, car Allah il a dit, rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient. Et le clairvoyant. ثم قال الشيخ يقولون في المثال الثاني إن الحسنات والسيئات كلتاهما بتقدير الله عز وجل لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. Il dit par rapport au deuxième exemple, donc il avait donné Al-Shaykh rahimahullah ta'ala, qui était donc le verset de la sourate An-Nisa, verset 79, lorsqu'il dit, dans le sens rapproché, et ce qu'il t'a touché, comme bien, eh bien, il vient d'Allah. Et ce qui t'a touché comme mal, cela ne vient que de toi. Cela vient de toi. Et le verset de la sourate An-Nisa aussi, verset 78. Et si un bien les touche, il dit ceci vient d'Allah. Et si un mal les touche, il dit ceci vient de toi. Dit tout vient d'Allah tabarak wa ta'ala. Le bien comme le mal. Taïb. Il répond par cela, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit que al-hasana wa sayya. Donc les bonnes choses comme les mauvaises choses ne surviennent et se produisent que par prédestination de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Taïeb. Mais les bonnes choses ont des causes. Leurs réalisations sont provoquées par des causes qui sont les grâces de la part d'Allah tabarak wa ta'ala sur ses serviteurs. Quant aux mauvaises, eh bien, leur cause, c'est l'acte de la créature. Comme il dit Allah Jalla wa Ala, « Wa ma asabakum min musiba » ce qui vous a touché comme malheur, eh bien, ce n'est qu'à cause de ce que vos mains ont perpétré et il absout beaucoup de choses. Donc, le fait d'annexer une mauvaise chose à la créature est le fait d'annexer la chose à sa cause. Lorsqu'on va annexer la mauvaise chose à la créature en disant ce qu'il a touché comme malheur n'est qu'à cause de ce que ses mains ont fait, eh bien en disant cela nous indique que la cause de ce malheur, eh bien c'est la créature, c'est l'acte de la créature. D'accord ? Donc là on va parler de la cause. Ce n'est pas pour annexer ce malheur-là à celui qui l'a prédestiné et celui qui l'a écrit. Alors que lorsqu'on va annexer le bien comme le mal, yani les bonnes choses comme les mauvaises choses, à Allah tabarak wa ta'ala, eh bien c'est dans c'est le fait d'annexer ces choses-là à celui qui les a prédestinées et qui les a décrétées. D'ailleurs, donc on a vu deux perspectives. La première perspective, le fait d'annexer ces choses-là à celui qui les a causées. Et la deuxième perspective, le fait d'annexer ces choses-là à Allah tabarak wa ta'ala, qui est celui qui les a décrétées et prédestinées. Et ainsi, donc, en ayant ces deux points de vue et ces deux angles différents, la mauvaise compréhension sera dissipée et le problème sera résolu. Alhamdulillah. Taïeb. ثم قال ويقولون في المثال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله والمعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله تبارك وتعالى ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى وحاصلا؟ كلا فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا طيب ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع منه الشرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن بما لا يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام. Et pour finir, inshallah ta'ala, par rapport à l'exemple, au troisième exemple qu'il a donné le Cheikh dans la sourate Yunus, alayhi salam, lorsqu'il dit à Allah tabarak wa ta'ala, et si tu es dans le doute sur ce que nous t'avons descendu, demande à ceux qui lisent les livres avant toi, à ceux qui ont lu le livre avant toi, certes la vérité était venue de ton Seigneur, ne sois pas parmi ceux qui doutent. Vous voyez? Donc on répond à ceux qui auraient une mauvaise compréhension par rapport à ce verset, qui croiraient que le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala est touché par le doute, ou qui doutent sur le message d'Allah et sur la révélation. On répond à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais douté sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a descendu sur lui. Au contraire, c'est le plus savant de ce qu'Allah a descendu sur lui. Et celui qui a la certitude la plus forte, comme Allah Jalla wa'ala a dit dans la même sourate, dit aux gens, si vous êtes dans le doute sur ma religion, eh bien, je n'adore pas ceux que vous adorez en dehors d'Allah, tabarak wa ta'ala. C'est-à-dire, le sens ici, c'est si vous doutez de ma religion, eh bien, moi, je suis sur la certitude à son sujet. Et c'est pour cela que je n'adore pas ceux que vous adorez en dehors d'Allah, tabarak wa ta'ala. Au contraire, je les renie et j'y m'y crois et j'adore Allah et Allah seul. Donc, il n'est pas nécessaire dans la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, et si tu es dans le doute sur ce que nous t'avons révélé ou descendu, que ici, le doute soit quelque chose qui est possible chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que le doute soit quelque chose qui est admissible, ou pire, qui s'est produit chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. N'as-tu pas vu la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, de le sens rapproché, dit, si Ar-Rahman avait un enfant, je serais le premier des adorateurs. Est-ce que cette parole-là dit, si Ar-Rahman avait un enfant, elle nécessite obligatoirement que cela est possible pour Allah, wal'iyadu billah, ou que cela est admissible pour Allah, ou que cela, au contraire, yani, pire que ça, s'est produit, qu'Allah soit éloigné de tout ça, qu'Allah, cela ne s'est pas produit, et cela n'est pas admissible en aucun cas, et jamais sera admissible, cela ne sera admissible pour Allah, tabarak wa ta'ala. Il dit Allah Jalla wa ala, wa ma yambaghi lir-Rahman. Il n'incombe pas au Rahman de prendre un enfant. Et certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre, yani, viendront au Rahman en tant que serviteurs. Donc il n'est pas nécessaire, à travers la parole d'Allah tabarak wa ta'ala non plus, فَلَا تَكُنَّنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, ne soit donc pas parmi ceux qui doutent, eh bien, que cela signifie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a des doutes. Vous voyez pourquoi? Parce que l'interdiction ici d'une chose, elle peut être orientée vers quelqu'un qui ne fait pas cette chose-là et qui ne la fera jamais. N'as-tu pas vu la parole d'Allah tabarak wa ta'ala? Et qui ne t'empêche pas de propager les versets d'Allah tabarak wa ta'ala après qu'ils aient été descendus sur toi, et appelle à ton Seigneur et ne sois donc pas parmi les polythéistes. Donc il est connu que aucun polythéiste, aucun mécréant n'a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre les versets d'Allah tabarak wa ta'ala. Dans le sens que le prophète ne s'est jamais arrêté de la transmettre. il a toujours continué. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais tombé dans le polythéisme. Bien qu'Allah il ait dit, il ne soit pas parmi les polythéistes. Donc cette interdiction-là, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'indique pas le fait que cela est possible chez le prophète, ou que cela s'est produit pour le prophète. Alayhi salatu wa sallam. Donc l'objectif, pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala interdit ces choses-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous savons très bien que le prophète n'a aucun doute, ou que le prophète a toujours continué de transmettre son message, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais tombé dans une forme de shirk. Eh bien, l'objectif, c'est premièrement de condamner justement ceux qui sont tombés dedans, de condamner ceux qui doutent, de condamner ceux qui se font empêcher et arrêtent de transmettre la religion d'Allah, de condamner ceux qui associent Allah Jalla wa Ala dans l'adoration. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de mettre en garde contre leur minhaj, contre leur voie, leur chemin déviant. Et donc ainsi, à travers cette réponse et cette réfutation, c'est dissiper ce qu'on appelle al-ishtibah, la confusion, l'ambiguïté, l'équivalence. Et la pensée sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mauvaise. Taïeb. Alhamdulillah. Donc on s'arrête sur ça, inshallah ta'ala. On continuera la semaine prochaine, inshallah. Et on verra donc le chapitre concernant anwa' al-tashabuh fil Qur'an. Cette fois, les différentes catégories de tashabuh dans le noble Coran. Wal-ilmu 'inda Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.